Sud Radio, il est 14h. Sud Radio.
Parlons vrai.
Les infos avec Léa Guichou.
Bonjour à tous. Le Premier ministre réagit au blocage des étudiants pro-palestiniens à Sciences Po. Gabriel Attal dénonce un spectacle navrant, choquant d'une minorité qui a cherché à perturber, je cite. Plusieurs dizaines d'élèves ont occupé le site parisien exigeant de la direction qu'elle condamne clairement les agissements d'Israël. Étudiants et direction ont finalement trouvé un accord dans la soirée hier. À l'occasion d'un déplacement dans la Manche, le Premier ministre s'est aussi exprimé sur la crise que traverse le monde agricole. Gabriel Attal a défendu un dialogue continu et permanent depuis plusieurs mois avec les agriculteurs. Il se rend aujourd'hui sur une exploitation maraîchère touchée par la tempête Kiaran et les inondations ces derniers mois. Le gouvernement qui a dévoilé des mesures complémentaires en faveur des agriculteurs, de nouvelles aides à la trésorerie des exploitations ou encore l'accélération de 100 projets de stockage d'eau ou d'irrigation. La portion de l'autoroute A13 fermée entre Vaucresson et Paris ne rouvrira pas le 1er mai comme annoncé dans un premier temps. Sa fermeture est prolongée pour une durée indéterminée. Cette portion située entre le boulevard périphérique parisien et l'A86 est interdite à la circulation en raison de mouvements de terrain. Prudence dans le sud-ouest du pays. 8 départements sont placés en vigilance orange aux orages. La Gironde, les Landes, la Charente, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, le Gers, le Tarn-et-Garonne et le Lot. C'est parti pour un peu plus de 10 jours en mer. La flamme olympique a quitté la Grèce ce matin. À bord du voilier Le Bellem, elle va traverser la Méditerranée pour rejoindre Marseille. Arrivée prévue le 8 mai prochain, 150 000 personnes seront présentes pour l'occasion. Il y aura entre 6 et 8 athlètes palestiniens aux JO de Paris, déclaration du président du Comité international olympique dans une interview à l'AFP. Le CIO invitera ses athlètes même s'ils ne parviennent pas à se qualifier. Le foot, 31e journée de Ligue 1 et le PSG reçoit le Havre à 21h ce soir. Et puis en rugby, 22e journée de Top 14, à 15h Toulouse Racing 92, à 17h Lyon-Pau, Montpellier-Perpignan, Bayonne-Bordeaux-Bègles et Oyonnax-Castres, avant Clermont-Stade Français à 21h. Très bon après-midi à tous.
Le meilleur de Sud Radio. John Rakotozafi.
Et quel plaisir de vous retrouver comme chaque week-end sur Sud Radio pour faire le point pendant une heure sur les meilleurs moments de l'antenne ces 7 derniers jours avec évidemment des séquences qui vous ont fait réagir sur nos réseaux sociaux comme par exemple la venue ce vendredi de Bernard de la Villardière au micro de Valérie Expert et de Gilles Ganzman, le journaliste qu'on connaît notamment pour l'émission Enquête Exclusive, a créé sa plateforme Réel Média et il a fêté le premier anniversaire de cette plateforme. C'était l'occasion de venir en parler à notre micro. Et puis il s'appelle François Belet, il était au micro cette semaine d'André Bercoff pour parler d'un jeu de société qu'il a créé qui s'appelle La Traversée de Paris. L'occasion de revenir avec lui avec humour sur la situation plutôt catastrophique de la capitale et de la politique évidemment, avec bien notamment Roland Lescure, le ministre délégué en charge de l'industrie, qui était l'invité de Benjamin Glaize ce vendredi, qu'on réécoutera d'ici quelques minutes à peine sur Sud Radio.
Le meilleur de Sud Radio. John Rakotozafi.
Avant ça, un autre membre du gouvernement était à notre micro cette semaine. Je parle d'Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture, qui était à notre micro pour répondre notamment à cette question. Est-ce que le gouvernement aide vraiment les agriculteurs? Réponse maintenant sur Sud Radio.
Sud Radio, l'invité politique. Benjamin Glaize.
Bonjour à tous, Sud Radio, parlons vrai avec mon invité politique aujourd'hui, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, Agnès Pannier-Runacher. Bonjour.
Bonjour Benjamin Glaize.
Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Il y a près de 100 jours, la colère des agriculteurs éclatait. Depuis, le gouvernement a pris des engagements. On va voir où on en est très concrètement de ces engagements, point par point. Mais d'abord, l'actualité, eh bien, c'est le gel avec un certain nombre de dégâts depuis plusieurs jours. La nuit dernière a été très compliquée pour un certain nombre d'agriculteurs. Elle sera encore a priori demain, la nuit prochaine. Est-ce que vous avez déjà un premier bilan de ces dégâts ce matin?
Non, pas de premier bilan, mais cette situation, elle illustre les difficultés que traversent les agriculteurs et une des causes importantes de la crise agricole ces dernières années, qui n'est pas propre à la France, c'est le dérèglement climatique. ces quelques dernières années. Nous avons des dégâts chaque année qui sont liés à des facteurs climatiques nouveaux, inondations, gels tardifs, canicules, sécheresses, qui représentent plusieurs centaines de millions d'euros de pertes de récoltes. Là où il y a 10 ans, ça ne représentait que quelques dizaines de millions d'euros. Et c'est un des enjeux sur lequel nous devons agir. Et c'est pour ça aussi qu'il faut remettre en perspective cette crise qui n'est pas que française, puisque en Europe et dans le reste du monde, les agriculteurs sont sous pression en ce moment.
Est-ce qu'on peut parler en tout cas sur cette période de gel tardive d'un événement d'ampleur, en tout cas de dégâts d'ampleur exceptionnelle? Est-ce que ce sera le cas? Est-ce que vous attendez à cela? Est-ce que ça vous inquiète à ce niveau-là?
Tout dépend de où vous mettez l'exception, puisque nous avons cessé de battre des records ces dernières années, et donc on ne sait plus très bien ce qui est exceptionnel de ce qui est du récurrent. Ce qui est sûr, c'est qu'on sera aux côtés de nos agriculteurs qui aujourd'hui agissent sur le terrain pour faire en sorte de sauver, notamment en arboriculture, leur récolte, et qu'on fera le point avec eux, comme on le fait à chaque fois qu'il y a des épisodes, pour pouvoir les accompagner au mieux.
C'est-à-dire que selon l'ampleur des dégâts, il y aura une enveloppe financière exceptionnelle qui pourrait être débloquée?
Écoutez, je vais pas lire dans le marc de café. Ce que je sais, c'est que ces 7 dernières années, nous avons toujours été aux côtés des agriculteurs dans les temps et en tenant nos engagements.
Donc si l'ampleur des dégâts est importante, il y aura une aide en tout cas débloquée.
Je n'annonce rien. Ce que je dis, c'est que pour le moment, il faut être aux côtés des agriculteurs, faire en sorte qu'ils traversent ce cap. Mais vous le savez, que ce soit sur la MHE cette année, des enveloppes ont été débloquées. Sur les pertes de betteraves l'année dernière, des enveloppes ont été débloqués et nous avons toujours été à la hauteur. Maintenant, ce que je souhaite surtout, c'est qu'il y ait moins de dégâts possibles. C'est peut-être la meilleure façon de répondre à la situation.
Pour cela, il y a aussi la possibilité d'équiper davantage les arboriculteurs, les viticulteurs, pour éviter qu'ils soient victimes à ce point de ces gels tardifs. Certains demandent justement qu'on les aide davantage à s'équiper. Est-ce que c'est une possibilité envisagée par le gouvernement aujourd'hui?
Je crois qu'un des grands enjeux dans les années qui viennent, c'est de permettre aux agriculteurs de s'adapter au dérèglement climatique. C'est-à-dire de pouvoir s'équiper effectivement face aux nouvelles agressions que subissent leurs cultures. Ça peut être donc ces différents événements. On sait que on soutient aujourd'hui des agro-équipements en les développant au travers du plan France 2030. Donc on n'a pas attendu de constater cette situation pour accompagner le développement de nouveaux équipements, mais également d'apporter des soutiens aux agriculteurs pour s'équiper, que ce soit contre les ravageurs, que ce soit contre des situations de difficulté.
Le gel, les aléas climatiques.
Un exemple qui a l'air d'être très éloigné, mais en réalité qui peut faire partie de la panoplie, c'est l'agrivoltaïsme. L'agrivoltaïsme permet de gagner 1-2 degrés en situation de gel, c'est-à-dire c'est ces panneaux photovoltaïques qui sont positionnés notamment au-dessus des arbres en arboriculture ou des vignes en viticulture. Elle permet de protéger aussi les cultures contre la grêle, contre les pluies massives. Elle permet de gagner à quelques degrés en moins lorsqu'il y a des canicules. Donc on le voit, on commence à multiplier la panoplie des réponses face au dérèglement climatique. Et c'est un des enjeux sur lesquels nous allons travailler avec Marc Fesneau.
Sur l'aide à l'investissement, je voyais 20 millions d'euros par an pour aider à s'équiper justement face à ces aléas climatiques pour les agriculteurs. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ces aides vont être augmentées ou pas?
N'oublions pas que nous avons aujourd'hui 1,3 milliard d'euros dans le budget du gouvernement pour accompagner le monde agricole et le monde forestier à leur transition agroécologique. Et cette transition, c'est à la fois améliorer leur bilan environnemental, baisser les émissions de gaz à effet de serre, préserver le puits carbone et diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires, mais c'est aussi leur permettre de s'adapter au dérèglement climatique et donc d'être plus résistants. Donc nous avons mis les crédits. 1,3 milliard d'euros, c'est une somme inédite dans l'histoire du budget de l'agriculture. Ça va en plus de la politique agricole commune, 9 milliards d'euros, dont je rappelle que c'est le premier budget de l'Union européenne. Un tiers des finances de l'Europe viennent en soutien des agriculteurs européens.
On va revenir sur les produits phytosanitaires, également sur la PAC déjà pour pour parler de cette colère agricole et des annonces faites par le gouvernement sur les aides liées à la PAC. On en est où aujourd'hui, notamment sur les agriculteurs, pour les agriculteurs bio justement, est-ce que ces aides ont été versées?
Alors, le gouvernement avait pris l'engagement de payer toutes les aides du premier pilier
au 15 mars.
Ça a été fait. Donc ça, nous avons tenu nos engagements. S'agissant des aides pour les agriculteurs bio, vous le savez, ce sont des aides qui ne sont pas payées au mois de mars habituellement. Hein, vous avez un délai. Et notre objectif est de les payer entre mars, puisque les paiements ont démarré entre mars et juin.
C'est-à-dire qu'on a une première estimation là du nombre justement de ces aides aujourd'hui débloquées pour ces agriculteurs bio.
Les agriculteurs bio ont bénéficié de la première tranche d'aide qui constitue une grosse partie des aides et ils vont bénéficier des aides complémentaires sur le bio. Et notre objectif, c'est de terminer tous les paiements d'ici le mois de juin.
En ce qui concerne le projet de loi agricole, c'est l'une des réponses majeures, on va le dire, du gouvernement à cette colère des agriculteurs. Elle a été présentée, ce projet de loi a été présenté début avril en Conseil des ministres. Quand sera-t-il débattu à l'Assemblée et pour une application, une adoption autour de quelle date? C'est quoi l'objectif?
Alors, passage à l'Assemblée nationale mi-mai, passage au Sénat grosso modo mi-juin. Si l'Assemblée nationale et le Sénat se mettent d'accord, c'est un projet de loi qui pourrait être adopté avant le mois d'août. Sinon, une deuxième lecture sera nécessaire, mais là encore, l'objectif est évidemment l'adopter avant l'automne.
Ah, entre-temps, il y a eu la saisine du Conseil constitutionnel. À l'initiative de la France insoumise, on en est où à ce niveau-là?
Eh bien, le Conseil constitutionnel a quelques jours pour se prononcer, mais c'est une manœuvre politicienne de la France insoumise qui n'aura aucun impact sur le calendrier, puisqu'il pointe les défauts de l'étude d'impact, dont le Conseil d'État reconnaît lui-même qu'elle est globalement satisfaisante, ce qui est dans la bouche du Conseil d'État...
Avec quelques réserves tout de même sur...
Alors, je vais aller jusqu'au bout, ce qui est dans la bouche du Conseil d'État est plutôt un satisfait quitte. Et elle a été complétée sur les deux points sur lesquels le Conseil d'État souhaitait des compléments, c'est-à-dire que la France insoumise laisse entendre qu'il manque des choses. Nous l'avons complété entre deux. Le Conseil constitutionnel jugera, mais le calendrier est préservé.
Vous avez bon espoir, en tout cas, que le calendrier soit préservé et que la décision du Conseil constitutionnel aille dans votre sens.
Les agriculteurs ne comprendraient pas que parce que nous avons remis une étude d'impact de 250 pages fouillée, détaillée, certains groupes politiques essayent de faire dérailler ce projet alors qu'il est utile. On est vraiment dans la politique politicienne.
On est une décision politique qui fait du mal avant tout aux agriculteurs.
Mais évidemment, puisque l'objectif c'est d'essayer de retarder l'examen d'un projet qui est attendu par les agriculteurs et qui a été co-construit avec les agriculteurs.
Sur ce projet de loi agricole, alors on vise notamment la souveraineté alimentaire, l'émergence d'une nouvelle génération d'agriculteurs, c'est important, et puis également la simplification de certaines normes du côté des ONG, de la gauche, globalement, on dénonce un retour en arrière au point de vue de l'écologie, des contraintes environnementales, c'est votre avis ou pas hein?
Non, la gauche confond être procédurier et être ambitieux climatiquement. Nous considérons que le climat est un objectif intangible. La lutte pour la préservation de la biodiversité et la baisse des émissions de gaz à effet de serre. C'est d'ailleurs ce gouvernement et cette majorité qui a eu les meilleures performances en la matière. Je rappelle que l'année dernière, la France a baissé ses émissions de gaz à effet de serre de 4,8%. C'est la performance de l'intégralité du mandat du président Hollande. Donc on n'a pas de leçons à recevoir de la gauche en matière de lutte contre le dérèglement climatique. En revanche, nous avons une approche pragmatique. Lorsque, par la loi, par exemple, on impose de ne pas couper les haies après le 15 mars, alors que, comme dans mon territoire du Pas-de-Calais, il n'a pas arrêté de pleuvoir et qu'il était parfaitement impossible d'entretenir les haies avant le 15 mars, eh bien, on est à côté de la plaque. Et donc, nous, ce que nous faisons, c'est de tenir compte de la réalité du terrain, de faire confiance aux agriculteurs, parce qu'il faut rappeler qu'ils sont pleinement engagés dans la lutte contre le dérèglement climatique. Ils en sont, je le redis, les premières victimes.
La ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture, Agnès Pannier-Runacher, était notre invitée au micro de Benjamin Glaize sur Sud Radio.
Le meilleur de Sud Radio. John Rakotozafi.
Benjamin Glaize, qu'on retrouvera avec un autre ministre, cette fois-ci le ministre délégué en charge de l'industrie et de l'énergie, Roland Lescure. C'était ce vendredi sur Sud Radio et ça sera donc à suivre dans les prochaines minutes. Et de l'énergie, il va en falloir pour survivre cet été à l'enfer des JO à Paris. D'ailleurs, c'est l'objet d'un jeu de société dont on a parlé cette semaine qui s'appelle La Traversée de Paris. C'était chez André Bercoff et qui de mieux que son créateur pour nous en parler. Ça sera dans quelques instants sur Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Mais U, peut-on trouver 4 fruits et légumes à prix coûtant chaque semaine?
Ici, dans les magasins U, il y a plein de fraises à prix coûtant. Et à seulement 2,69€ la barquette. Ah, j'ai couru pour pas rater ça.
Ouh. Retrouvez chaque semaine 4 fruits et légumes à prix coûtant. Du 25 au 27 avril dans vos magasins U, les fraises rondes à prix coûtant sont à seulement 2,69€ la barquette de 500 grammes, soit 5,38€ le kilo. U, commerçant autrement.
Catégorie 1, origine France par modalité et magasin participant sur magasin-u.com.
Sud Radio au bagne.
95.1.
Sud Radio.
Il était une fois un prince et sa bien-aimée en quête d'une idée pour le dîner. Le nez dans le frigo, ils virent les endives Origine France à 1,95€ le sachet de 1 kg chez Aldi et purent ainsi se lancer dans la préparation de petites endives braisées. Eh, voilà, hein, ça fait le job comme on dit. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, offre valable jusqu'au samedi 27 avril. Info sur aldi.fr.
Quand on part en vacances, mes parents ils me réveillent en pleine nuit pour éviter les embouteillages.
Bah moi les miens ils se couchent super tard pour finir la valise.
Mon père aussi, et en plus il veut jamais s'arrêter pour arriver plus vite.
Après il est épuisé.
Et si nous transmettions la bonne attitude sur un long trajet, une pause toutes les deux heures?
Assurance Prévention, une association de France Assureurs.
Pourquoi se dépêcher d'aller chez Castorama avant la fin de l'anniversaire Castorama? Parce que quand on a l'esprit Castor, on aime les salles de bain bien agencées, à prix bien réduit. Et justement, en ce moment, les meubles de salles de bain design et pratique de la collection Vague sont à moins 25%. Une vraie affaire d'anniversaire. Mais attention, les incroyables prix anniversaire Castorama, c'est bientôt fini. Alors on se dépêche, c'est seulement jusqu'au 6 mai. Et oui, tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Castorama, changer nous fait avancer.
Voir conditions en magasin et sur castorama.fr.
Alors, vous qui cherchez une bonne protection, je peux vous prêter mon armure, la Gladiatos.
C'est sympa, mais c'est pas un peu grand pour un enfant de 4 ans?
Oui, mais il va bien grandir, non?
Oui.
Voilà.
Une seule protection pour tous, c'est du passé. Chez Aesio Mutuel, les garanties sont adaptées aux besoins de chacun, à toutes les situations familiales, et certaines médecines complémentaires peuvent être prises en charge. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui.
Rendez-vous en agence ou sur aesio.fr pour découvrir nos offres promotionnelles.
Carrefour.
Quand vous me dites « le week-end, faut se faire plaisir »,
je vous réponds que le bon plan du week-end, c'est la bavette de bœuf 3 étoiles à griller, garantie prix le plus bas, à 13,99€ le kilo seulement.
Alors, c'est parfait.
Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 10 fois la différence. Et c'est jusqu'à demain chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Origine Allemagne, Royaume-Uni ou Pays-Bas. Caissette de 800 grammes environ, détails sur carrefour.fr.
Le meilleur de Sud Radio. John Rakotozafi.
Comme chaque week-end, on se retrouve tous ensemble sur Sud Radio pour profiter ensemble des meilleurs moments de l'antenne avec dans quelques instants un maître de l'investigation très connu à la télévision sur M6 avec son émission Enquête Exclusive, mais qui s'est aussi attaqué aux réseaux sociaux, aux plateformes de streaming. Bernard de la Villardière était là pour nous parler de sa plateforme Réel Média au micro de Valérie Expert et de Gilles Gansman. Et je pense qu'il pourrait faire une enquête sur Paris et notamment Paris 2024, un sujet qui a très très fortement inspiré François Belet. Il est tout simplement spécialiste de communication politique et il a décidé de créer un jeu de société pour tout simplement parler de l'enfer qui est devenu Paris. Ce jeu s'appelle La Traversée de Paris et on en parlait ce mercredi dans Bercoff dans tous ses états sur Sud Radio.
Sud Radio, André Bercoff. Bercoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
Paris chante toujours, Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat de...
Mais c'est vrai, Paris sera toujours Paris. Paris, c'est tellement fabuleux, la plus belle ville du monde, allez, disons-le, et surtout en ce moment, Et puis il y a quelqu'un, expert en communication politique, mais sulfureux, qui vient de créer un jeu de société qui s'appelle La Traversée de Paris, qu'on a reçu. La traversée de Paris, on s'est dit, c'est formidable, c'est vrai, on est à un mois et demi des Jeux Olympiques, alors on va tous aller là-bas, puis des millions de gens vont venir du monde entier pour assister à cette grande cérémonie, ces grandes cérémonies. Mais alors comment faire? Eh bien, François Bellet a imaginé un guide, mais en forme de jeu, une espèce de Monopoly géant sur Paris. Et vous allez voir, décrivez-le avant qu'on fasse parler François Bellet. Esteban Rania, vous avez joué avec Thibaut Sadler à cela. Vous en êtes devenu transformé, pratiquement bouleversé. On sent qu'ils ne tiennent plus. Là, ils sont dans un état de totale décomposition. Pourquoi? Comment? C'est quoi ce jeu?
Ah oui, c'est vrai qu'André, il y a des émissions plus sympathiques et plus faciles à préparer que d'autres. Avec Thibaut Sadler, on s'est attelé, on a reçu le jeu de François Bellet, qui ressemble, on peut le dire, à un jeu de loi pour ceux qui connaissent. Alors vous avez un plateau avec des dessins vraiment magnifiques. Les graphistes ont fait un travail superbe. Et puis avec beaucoup d'ironie, beaucoup d'humour évidemment, mais qui cache peut-être une part de vérité pour certains Parisiens. Alors vous avez un plateau composé de nombreuses cases. Vous jetez un dé et puis vous tombez sur des cases bleues, vertes.
Donc, alors, comment s'appellent ces cases? Donnez-nous des exemples. Alors,
je tombe sur une case bleue qui est une case mobilité urbaine.
Oui.
Et donc là, j'ai une remarque de la question. Donc, je pioche une question bleue.
Oui.
Et ça me dit, alors, tiens, route bloquée à cause d'activistes du climat, la main collée à la route, restez sur votre case. Donc, je suis bloqué, je peux pas avancer dans.
Ah bon, il y a des routes bloquées comme ça avec des fous du climat qui collent leurs mains. Oui.
Exactement.
Autre chose.
Ouais. Je tombe sur une case verte. Alors, j'ai tiré le dé, j'ai fait 3. Je tombe sur une case verte. Et là, c'est une case question. Donc, je vous pose une question, André, chers auditeurs, vous pouvez répondre. En 2022, combien de chantiers étaient encore en cours dans les rues de la capitale? Réponse A, près de 5000. Réponse B, près de 8000. Ou réponse C, près de 10000. Est-ce que vous avez une idée?
3000, 5000 ou...
Non. 5000, 8000 ou 10000?
Ou 10000. Je dirais 8000.
Eh bien, c'est 10000.
10000.
Ouais, donc là, vous avez perdu, vous restez sur votre case. Est-ce que j'ai à peu près bien résumé, François Bellet?
C'était parfait. C'était parfait. Quelle entrée en matière.
Alors, François Bellet, comment ça vous est venu? C'est vous est venu comment on peut comprendre, c'est vrai qu'en regardant ça, quand j'ai vu ça, je veux dire, c'est formidable parce que c'est très drôle et encore une fois, vous allez beaucoup vous amuser. C'est une description de Paris, je dois dire, d'un réalisme saisissant. Et vous êtes dit, voilà, je vais un peu montrer, faire un jeu et puis rire de cette espèce de d'hallucinante gestion de Paris.
Ouais, en fait, je dirais que l'idée, elle s'est fait un peu en deux temps. Le premier temps, c'est que donc là, c'est vraiment une expérience du réel. J'étais dans l'enfer des embouteillages de la porte Maillot.
Ouais.
Et donc j'étais dans ma voiture et je me rendais à un rendez-vous et je me suis retrouvé à l'intersection de la modernité, c'est-à-dire entre les travaux, les embouteillages, les altercations et puis cet esthétisme violent avec les travaux, les rénovations. Et puis forcément, au volant de sa voiture, eh ben, soit on cogite, soit en tout cas on s'agite. Et j'ai commencé à me dire, traverser Paris est devenu une épreuve. Et voilà,
clair.
J'avais les trois mots-clés, les clés, donc c'était la traversée de Paris, qui est devenue donc l'épreuve olympique
qui est un grand
la plus difficile.
Et qui est un très grand film, vous rappelez.
Et étant adepte du détournement sur le plan publicitaire
bien
et communicationnel,
sûr.
La traversée de Paris, j'ai repris ça et j'en ai fait mienne. Et je dirais que j'ai validé cette idée-là aussi avec le contexte, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de contenu produit sur une ville. Paris est devenu un marqueur, c'est-à-dire qu'on ne parle pas autant de New York, de Sydney ou de Londres, c'est Paris. Paris, c'est devenu un sujet. Et donc, je me dis de fixer l'époque, de photographier l'époque dans ce quart de ce premier quart du XXIe siècle, ben, il fallait le faire, donc je l'ai fait.
Oui, mais alors, justement, vous l'avez photographié, mais de quelle manière, hein? Pour le meilleur et pour le pire. Moi, je regarde, justement, les découvertes. Découvertes touristiques, hein? Démonstration du maniement de la machette par un Maudou. C'est quoi un Maudou, d'ailleurs?
Oui, ben ça, c'est les vendeurs de crack.
D'accord.
Il y en a un peu partout dans Paris. Mais ce qui est intéressant,
non,
c'est effectivement de passer de case en case. Et de vivre, j'ai appelé ça des découvertes touristiques, mais finalement ce sont des épreuves de la vie urbaine contemporaine.
Bien sûr, non mais c'est par antiphrase que vous avez appelé
des
découvertes
touristiques. Absolument, donc c'est
des
attaques de rats, c'est des coupures de gaz. Et en fait, tout ce qui est écrit là, en fait, c'est pas forcément une caricature, c'est vraiment une photographie, parce qu'en fait, tout a été vécu. C'est des choses que... Et en fait, j'aurais pu en faire un livre. D'habitude, j'écris des livres, des essais, mais j'ai trouvé que par le prisme du jeu, c'était plus intéressant,
plus amusant. C'est un jeu vraiment, d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand même Paris, la plus belle ville du monde, Paris, 1500 ans d'histoire, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est vrai, tir de mortier contre des consommateurs de crack, menace insistante devant une salle de shoot, chantier urbain en vrac laissé en jachère, alors ça c'est formidable, quartier plongé dans le noir après une coupure de courant, embrouille avec un vendeur de billets à la sauvette, rencontre fortuite avec un plug géant, et oui, ça se rappelle la place Vendôme. Oui, hein.
Exactement.
Voilà. Et mouvement de foule dans un centre commercial. Voilà, c'est vraiment... en fait, c'est à la fois extrêmement ironique, mais vous êtes dur sur Paris. Hein, parce que Paris est une jungle, quand même. Quand on voit votre jeu, on se dit, là, c'est devenu la jungle.
Non, mais moi, pour moi, j'ai eu une approche naturaliste des choses, donc j'ai voulu faire... Voilà, j'aurais pu faire un petit texte écrit dessus.
Non mais c'est très drôle.
Mais alors ça c'est la dimension je dirais satirique, polémique, mais presque ouais photographique de l'époque. Mais ce qui est intéressant c'est que certes on en ressort énervé de ce jeu, mais aussi on en sort informé. Donc il y a le quiz avec les fameuses cartes Paris tragique.
Ouais.
Et là c'est vraiment un quiz à la fois sur les Jeux Olympiques, mais aussi sur la ville de Paris. Donc là on a cité les chantiers, mais par exemple sur le stationnement, qui est un vrai sujet, un autre fait marqueur de l'époque. Combien de FPS, vous savez, les forfaits post-stationnement, bon, ont-ils été dressés à Paris en 2022? 2 millions, 3 millions ou 5 millions?
5 millions.
Bravo André.
5 millions.
Et tout ça, ça pose question derrière.
Non, mais tout à fait. Non, mais j'allais dire, ce qui est intéressant, c'est que vous donnez des informations. Chaque carte donne une information. Vous voyez, par exemple, je prends un exemple comme ça, vous devez en avoir. Alors, c'est très intéressant de savoir combien de départements français ont refusé d'accueillir le passage payant de la flamme olympique. C'est 7, Esteban. 7, 17 ou 37?
Ah, je dirais 17.
17. En fait, 37.
Ah oui,
voilà.
37, c'est absolu. Alors là, c'est magnifique parce que ça, on connaît tous, enfin les Parisiens et tous les Français qui viennent à Paris. Quel est le temps moyen passé chaque jour par les Parisiens dans les transports en commun? 32 minutes, 42 minutes, 52 minutes.
Ah, je dirais 42 minutes.
52 minutes.
52 minutes.
Parce qu'à chaque fois, ce qui est intéressant aussi, c'est que à chaque fois, c'est le maximum qui est juste, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. Donc j'ai fait quand même attention que ce ne soit pas toujours la réponse C qui revienne.
Bien sûr.
Mais effectivement, les chiffres sont là et chacun après interprétera. En fonction de là où il se place, ces informations-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu. Vraiment de société, voilà. Et
oui,
j'ajoute le vraiment parce que je voulais redonner un peu de sociétal, un peu de sociologie au genre. Et donc le jeu de société, bon bah là, on apprend des choses sur cette mutation des villes. Et c'était intéressant pour moi de saisir l'époque.
Oui, alors, André, j'ai pas précisé, dans la boîte, il y a des cartes de santé mentale. Avec quelques mots dessus, donc il y a sensation d'oppression, fatigue mentale extrême, transpiration excessive, accélération du rythme cardiaque, etc., etc. À quoi elles servent et pourquoi ces mots?
Alors, ces cartes-là visent à altérer la santé mentale du joueur au cours de la partie. Si on en a 3, c'est fini. La partie s'arrête pour celui qui en a 3 et là, il faut qu'il fuit Paris au plus vite. Donc c'est un jeu intéressant parce que d'abord, on n'est pas sûr de finir le jeu.
Ouais.
Ça peut se terminer en 5 minutes.
Si vous êtes trop stressé, trop atteint,
voilà.
Ça va, vous quittez, quoi.
Et puis après, bah voilà, on enchaîne. Sensation d'oppression, crise d'hystérie, impression de devenir fou et dégoût de la vie urbaine.
Et ouais.
Donc voilà, c'est un jeu, de 2, 4 à 6 joueurs et qui mêle, à la fois un travail presque d'essayiste, parce que bon, il fallait chercher un peu de documentation et essayer de trouver un angle.
Bien sûr.
Et puis aussi un travail très artistique,
très avec belle, un dessinateur non, mais et très 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 beau dessin. Bah écoutez, en tout cas voilà, c'est un Monopoly, un Paripoly, un jeu de loi parisien. Mais ça, donc, vous savez, c'est toujours pareil, c'est Jean Cocteau qui parlait des miroirs qui réfléchissent. Et nous, on a décidé d'en parler, et c'est vraiment je vous le recommande, ce jeu, La Traversée de Paris, parce que, c'est un miroir. C'est un miroir de ce qui se passe dans une mégalopole, dans une grande ville, dans l'une des plus belles des grandes villes du monde, mais il y a aussi, effectivement, ce qu'on appelle le côté, non pas caché de la tapisserie, mais les trous dans la raquette, et les trous dans la raquette, ils sont très, très, très importants.
Berkov, dans tous ses états, c'est tous les jours entre midi et 14h sur Sud Radio.
Le meilleur de Sud Radio.
John Rakotozafi.
Et vous en avez l'habitude, hein, vous le retrouvez également sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Allez, restez avec nous dans quelques instants. On part en mode investigation avec le maître de l'enquête, Bernard de la Villardière, qui était l'invité de Valère Expert et de Gilles Ganzman pour parler de sa plateforme Réel Média qui vient de fêter son premier anniversaire. Il nous explique à quoi sert sa plateforme, qu'est-ce qu'on peut y retrouver. Ça sera dans quelques instants à peine sur Sud Radio.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
Merci Sud Radio de donner la parole aux sans voix.
Oui.
Grâce à vous, on avance, on avance.
Sud Radio, parlons vrai.
Ah, ce petit appartement, vous l'avez acheté, retapé, vous l'avez prêté à votre petit-neveu et puis vous pensiez le revendre, mais en fait, non. Vous l'avez loué à Madame Martin. Et à Matou aussi. Vos biens immobiliers ont plusieurs vies, mais nous, on ne peut pas le deviner. Alors pensez à nous dire qui occupe vos logements sur impots.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Sud Radio Axe-les-Thermes.
103.
Sud Radio.
À tous les enfants qui ont découvert chez le poissonnier que non, les poissons ne sont pas carrés. À ceux qui posent la question, pourquoi la glace ne fond pas sur les étals? Et à ceux qui se demandent pourquoi on dit moche comme un thon. Mais c'est pas moche un thon. Enfin, pas plus qu'un autre, quoi. Quand on voit la tête de la lotte... Jusqu'à samedi, Intermarché propose la longe de thon saumurée à seulement 13,79€ le kilo.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Transformés en France. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Alors, ça se passe comment ton boulot chez But?
Eh ben écoute, c'est juste waouh wow, quoi. Et puis tu vois, génial quoi. Et puis c'est tellement...
Travailler chez But, ça ne se raconte pas, ça se vit. Pour ses magasins et ses dépôts, des centaines de postes sont à pourvoir. De la vente et la logistique jusqu'au management, But recrute dans toute la France. Pourquoi pas vous? Rendez-vous sur But recrute.
Enfin tu vois quoi.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. J'ai profité de votre offre 2+1 offert sur les perles de lait.
Oh, trop bon ça.
Oui, mais bizarrement, le pack offert est encore meilleur que les deux autres. Vous savez pourquoi?
Ah ça, c'est juste le goût des bons plans. Du 23 avril au 4 mai, pendant l'opération Nos super pouvoirs d'achat chez Leclerc, le troisième pack offre découverte perles de lait vanille est offert. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Même promotion disponible sur d'autres variétés, modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus.
Yeah, yeah, wow, merci ma maman chérie, merci maman, merci. C'est comme ça que je te remercie, je t'aime ma maman, merci.
Menu King Junior, 4 euros. Un jour, vos enfants vous remercieront. Et en ce moment, 3 gourdes à collectionner chez Burger King. Menu King Junior avec jouets à 4 euros, prix conseillé. Remise d'une gourde pour l'achat d'une formule Glou Glou, stock limité. Plus d'infos sur burgerking.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Burger King!
Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, le kilo de pavé de saumon atlantique est à seulement 17,99€.
À ce prix-là, on va remplir les assiettes, le frigo et même le congélo.
Vous aimez le saumon, est-ce que je vois? Vous faites les stocks?
Oh, comme si vous n'alliez pas venir goûter un de mes plats.
Si vous insistez...
Eh ben j'insiste.
Auchan, avec plaisir. 17,99€, le kilo de pavé de saumon atlantique, élevé en Écosse ou en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Le meilleur de Sud Radio, John Rakotozafi.
On poursuit le week-end tous ensemble sur Sud Radio avec de la politique à venir dans les prochaines minutes. C'est Roland Lescure, le ministre délégué en charge de l'industrie et de l'énergie, qui était l'invité de Benjamin Glaize. C'était ce vendredi à 8h30. Mais avant ça, eh bien, on parle d'un autre invité qui était avec nous pour cette fin de semaine. Ce vendredi, Bernard de la Villardière était au micro de Valérie Expert et de Gilles Ganzman. Alors vous avez tous forcément déjà regardé ou au moins entendu parler des reportages d'enquête exclusive. Eh bien, Bernard de la Villardière, c'est aussi maintenant une plateforme en ligne qui s'appelle Réel Média. Et si vous n'avez pas encore entendu parler de cette plateforme, on vous explique tout avec lui, qui était notre invité pour parler du premier anniversaire de cette plateforme.
Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Ganzman.
Avec Bernard de la Villardière, Réel Média sur X, sur les réseaux, Facebook, on le trouve
sur TikTok.
C'est sur Facebook,
TikTok.
Instagram et TikTok pour l'essentiel.
Pourquoi Réel Média? Je trouve ça pas sexy comme
mais
nom.
C'est génial, au contraire. Le réel, c'est la complexité, c'est être confronté à ses préjugés, c'est formidable le réel.
Et moi, j'ai beaucoup de chance parce que quand j'ai voulu créer ma société de production, enfin, quand j'en rêvais, je me disais le jour où je l'appellerai, je lui donnerai un nom, j'appellerai Ligne de Front. Et en fait, le nom n'était pas déposé. Et je me suis dit, vraiment, bon, on a fait Néo, mais je m'étais dit, si on fait un nouveau média, je l'aimerais l'appeler Réel Média. C'est la confrontation à la réalité. Et la réalité, c'est passionnant. Et je vous rappelle la baseline, c'est laissez-vous surprendre par le réel. Le réel vous oblige à être nuancé, vous oblige à changer de point de vue, à élargir votre horizon.
Ça veut dire que le reste est faux ?
Non. Oui, souvent on a des préjugés. Bah, tant qu'on n'a pas été confronté au réel, on ne sait pas très bien. Parlons du conflit au Proche-Orient là, en ce moment entre Israël, Gaza, etc. Si vous n'avez pas été une fois sur place, au minimum, même en tant que touriste, vous ne comprenez pas à quel point ce conflit se déroule dans un tout petit espace et à quel point il est dans les mentalités, il est dans les et le poids de l'histoire, etc. Il faut rencontrer les gens, et quand vous rencontrez les gens, eh ben vous changez d'avis et vous voyez que le réel, vous oblige à vous adapter et à changer de point de vue.
Vous avez des avis bien tranchés, vous n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Il y a deux jours, vous reveniez d'Équateur. Vous avez tweeté « Retour d'Équateur, comité d'accueil à Roissy par des baltringues et des traînes savates, faux taxi sans doute, qui me traitent d'islamophobe et de raciste. Un policier alerté ne peut rien faire. La prochaine fois, ce sera le coup de couteau, point d'interrogation. Bienvenue en France. » Qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Ah bah, c'était un coup de colère dans le taxi et qui m'a ramené chez moi.
Vous arrivez à Paris et vous vous faites insulter ?
Oui, mais c'est de plus en plus le cas. J'ai été deux fois menacé de mort en France, à la fois à Saint-Brieuc et à Lyon, à quelques mois de distance, il y a quelques temps, par des gens qui viennent me voir et qui me disent « Non, mais monsieur de la Verdière, on vous a reconnu, allez-vous-en, vous êtes islamophobe, on va vous trancher la gorge, on va vous égorger. On a prévenu nos amis, on va vous égorger. » Quand j'arrive à Roissy, c'est pratiquement systématique. Il y a beaucoup de faux taxis qui sont là, etc. Vous arrivez, c'est la cour des miracles. Et là, ils sont de plus en plus agressifs. Et je pense que c'est aussi... C'est pas que de simples incidents isolés, c'est une volonté de conquérir, d'occuper le territoire et de vous intimider. Et ça, je ne le supporte pas.
900 sujets, 300 millions de vues, 600 000 abonnés sur les réseaux sociaux en seulement un an.
Ouais, non, c'est un vrai succès dont on est très fiers. On est une rédaction d'une quinzaine de journalistes qui vont sur le terrain, ce qui fait un peu notre différence par rapport à Néo ou d'autres médias, c'est qu'on est beaucoup sur le terrain. On évite de reprendre des vidéos, on les reprend de temps en temps, on en reprend de temps en temps, bien évidemment, on fait pas de la curation, on fait du produit original avec des gens qui vont sur le terrain, avec des gens qui viennent s'exprimer dans le studio de Réel Média, et notre baseline, on en est assez fiers, notre signature, c'est laissez-vous surprendre par le réel. Enfin, c'est une prolongation un peu de ce que je fais depuis des années dans Enquête Exclusive, et j'adore aller sur le terrain et me faire bousculer dans mes idées et dans même dans mes préjugés.
Alors comment c'est financé ?
Alors c'est financé par ce qu'on appelle le brand content, et la bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui il y a un vrai marché du brand content qui est en train de se développer. Brut et Combini ont enfin trouvé un équilibre économique après avoir perdu beaucoup beaucoup d'argent. Nous on s'est lancé plus tard, on est raisonnable évidemment, et si tout va bien on atteint d'ores et déjà notre équilibre économique. Et on va pouvoir faire une levée de fonds tranquillement d'ici quelques mois pour développer d'autres choses, notamment en matière de films institutionnels, de films de pub, etc.
Est-ce qu'il y a plus de liberté pour vous sur les réseaux pour
oui,
vous en
bien
tant que journaliste hein ?
Oui, bien sûr. Et puis je pense que les réseaux sociaux, je dirais que c'est presque la télé de demain. C'est-à-dire qu'on peut tenter des choses qu'à la télé, on n'ose plus tenter aujourd'hui, notamment des formats. Ouais. On a créé plusieurs formats. C'est une situation sur les métiers, où les gens viennent parler de leur métier, à la fois à travers des anecdotes, mais à travers leur situation sociale, ce qu'ils gagnent chaque mois. Il y a une femme pilote de ligne qui est venue notamment témoigner. On a fait une série sur Marseille récemment, à travers de multiples prismes. Ça, il y a une diversité d'offres sur un même sujet, il y a une diversité de traitements de l'information, etc., sur des sujets qui font 6, 7, 8 minutes.
On est plus sur des reportages, encore une fois, qui donne de la visibilité sur des engagements, qui donne de la visibilité sur des entreprises. On va pas retrouver le Bernard de la Villardière d'Enquête Exclusive.
Non, pas du tout. C'est le média, pas des solutions parce que c'est un mot qui est devenu un peu bateau, mais c'est le média dans lequel on met en valeur l'énergie humaine. En fait, l'objectif, auprès des jeunes, notamment, puisque c'est eux qui fréquentent beaucoup les réseaux sociaux, les 15-35 ans, mais aussi les 15-45 ans, parce qu'ils regardent aussi Facebook. À mon âge, on est beaucoup sur Facebook, évidemment. leur redonner un peu d'espoir et de courage et leur dire non mais écoutez, arrêtez de pleurnicher, arrêtez de vous dire demain c'est la fin du monde, parce que tout repose sur vous. Et en fait c'est pas la planète qui est en danger, c'est l'humanité. Mais l'humanité elle peut s'en sortir si vous vous, vous engagez et si vous rien n'est perdu.
Il y a
une idéologie effondriste là, enfin qui est manipulée par certains écolos radicaux et qui fait que le résultat, c'est que en matière de santé publique, vous avez un jeune sur 6 ou sur 7 de moins de 25 ans qui est en dépression.
Ouais.
Enfin, c'est vraiment.
On l'appelle la génération moins en moins.
C'est invraisemblable.
Mais qui vous regarde? Vous savez, vous connaissez vos téléspaces?
Ça dépend un peu des réseaux sociaux, en fait. Sur TikTok, notamment, où on a plus de 160 000 abonnés, c'est les jeunes, c'est les très jeunes, les 15, 20 ans, ou même les 12, 18, 20 ans. Sur Facebook, c'est un peu plus âgé. Sur Instagram, c'est plutôt les trentenaires. Donc on a un assez large spectre et ce qui est formidable avec les réseaux sociaux, c'est qu'on est beaucoup plus fin que médiamétrie, c'est-à-dire qu'on sait très bien qui nous regarde, à quel moment et combien de temps la vidéo est regardée. Ça nous aide aussi dans la manière de raconter nos histoires. Et on emprunte évidemment beaucoup à la télé, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on a pensé que les réseaux sociaux, il fallait clipper, il fallait faire du people, il fallait faire du clash.
Non.
Et la bonne nouvelle avec Néo et aujourd'hui, ce qui s'est confirmé avec Réel Média, c'est que non, on peut faire des choses, des vrais contenus avec des choses positives, avec de l'information. Moi, ce que je veux, c'est apporter de l'information.
Mais on a
la volonté de devenir un média généraliste d'information sur les réseaux sociaux.
Vous dites que votre modèle, c'est le point de contact, mais est-ce que les marques influencent votre contenu? Par exemple, j'ai vu que vous aviez Electro Dépôt et BPI France ou AXA. Comment on les retrouve dans vos programmes? Est-ce que Electro Dépôt, vous allez faire un reportage sur le trafic des ordinateurs?
Non, mais
comment se passe le mariage entre vos reportages?
Parce qu'on peut imaginer qu'il y a une sorte de.
Alors, il y a 90 à 95% de nos contenus qui sont originaux, qui sont indépendants, qui ne sont pas financés par des marques. Donc voilà. En revanche, il y a 5%, 5 à 10%, peut-être demain, de nos contenus qui sont financés par des marques, mais on raconte une histoire avec elles. Par exemple, Electro Dépôt, on a raconté le recyclage des produits. Du blanc.
Ah, j'étais pas loin.
Voilà. Mais on fait de l'information aujourd'hui. En fait, entre la communication, entre le brand content et le rédactionnel, il y a une épaisseur de plus en plus fine.
Parce que les marques, quand elles
communiquent, elles doivent raconter l'histoire et elles ne peuvent pas raconter de fausses histoires et faire du fake news. Parce que ça va leur retomber sur le dos. On co-construit éditorialement avec la marque des choses proches de leur univers et sur lesquelles elles veulent communiquer.
Et qui n'est pas du public. Reportage, c'est-à-dire
qui n'est pas du public reportage, absolument.
C'est un sujet qui est en marge de leur activité, qui porte un éclairage, parce que moi j'ai toujours trouvé passionnant les coulisses des entreprises. Je trouve qu'il y a des choses incroyables à raconter. C'est pas toujours facile. On avait voulu le faire sur France 3, aller montrer surtout dans l'agroalimentaire comment se fabriquent les chaînes, etc. Je trouve que c'est passionnant.
Bien sûr.
Parce que vous avez une marque qui est partenaire que c'est répréhensible.
Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'avec l'Occitane, par exemple, on a raconté comment ils aident les artisans, les agriculteurs, à revenir à des pratiques plus traditionnelles, à ne plus recourir aux insecticides, aux engrais chimiques, mais plus aux engrais organiques, à restaurer d'anciennes pratiques agricoles plus respectueuses de la terre et de la nature, voilà, ce genre de choses. AXA, on a fait avec eux les trophées RSE et on a mis en valeur les entreprises qui ont été primées dans ces trophées RSE. Donc c'est de l'information financée par une marque, mais ça reste de l'information
et on y veille. C'est devenu surtout pour les réseaux un vrai financement. Par exemple, vous avez Jamy qui a son blog et qui fait les inventions. Par exemple, quand il a Sephora qui fait une commande, il explique d'où vient le rouge à lèvres sans qu'il y ait de lien avec Sephora, mais il garde son côté création, comment ça se passe, les coulisses, mais il y a une brand contente derrière.
Ça me rappelle,
et c'est devenu un vrai marché.
Ça me rappelle une émission que je présentais, la première émission que j'ai présentée sur M6 il y a 25 ans maintenant, ça s'appelait Le Produit Star. Ouais, et on racontait l'aventure de la colle, la rentrée du Frigidaire, l'histoire du Frigidaire. Et j'aimerais d'ailleurs trouver une marque qui m'aide à financer ce genre de programme. Ouais. Je pense qu'il faut réconcilier la France. On parle de souveraineté économique, industrielle.
Absolument.
Il faut réconcilier les Français avec l'entreprise et avec l'aventure, la nouvelle aventure industrielle qui démarre.
Oui,
qui n'est pas restaurer les usines d'autrefois, mais les usines 2.0.
Bernard de la Villardière, au micro de Valérie Expert et de Gilles Gansman. C'était dans Sud Radio Média.
Le meilleur de Sud Radio. John Racotosafi.
Et pour écouter en intégralité l'interview de Bernard de la Villardière, eh bien ça se passe sur notre site internet sudradio.fr. Vous retrouvez également toutes nos interviews de la semaine dans Sud Radio Média, mais aussi dans Le Grand Matin, dans Parlons Vrai sur Sud Radio ou encore dans Les Vraies Voix. À suivre dans les prochaines minutes, Roland Lescure, ministre délégué en charge de l'industrie et de l'énergie. Il était notre invité cette semaine au micro de Benjamin Glaise.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai. Ça s'est passé sur Sud Radio.
Il y a certaines situations quand même qui débouchent sur des cas gravissimes avec des enseignants qui peuvent être menacés. J'en ai une dernièrement, on est allé déposer plainte.
Menacés, pourquoi ?
Tout simplement parce que il y avait eu un problème avec l'enfant, je ne sais plus lequel, et le papa clairement a menacé en disant j'arrive, je vais vous casser la gueule.
Sud Radio. Parlons vrai.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Pas vrai, Jean ?
Absolument.
Alors écoutez ça. Aujourd'hui, pendant le Top Rayon, exclusivement avec ma carte Netto, recevez un bon d'achat de 30% du montant dépensé sur tous les produits d'entretien de marque Netto.
30% en bon d'achat ?
Oui, grâce à ma carte Netto dans l'application de votre téléphone.
Pour le grand nettoyage de printemps, voilà une offre qui sent bon les économies.
Netto, on gagne tous à payer moins cher. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Offre réservée aux porteurs de ma carte Netto. Plus d'infos sur netto.fr.
Carrefour Énergie.
Quand vous me dites « l'électricité c'est trop cher »,
je vous dis juste qu'avec Carrefour Énergie, votre électricité est 20% moins chère que les tarifs réglementés. Et on vous offre 50 euros en carte cadeau Carrefour. Et c'est à prix bloqué pendant un an sur énergie.carrefour.fr. Carrefour Énergie. Service opéré par Octopus Énergie par rapport au prix du kilowattheure du tarif réglementé au 1er février 2024 hors toute taxe. Voir conditions sur énergie.carrefour.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Il était une fois une vaillante jeune fille ayant quitté son sud natal pour étudier. Pour retrouver le bon goût de chez elle, elle croqua dans le nougat de Montélimar, pays gourmand, reconnu saveur de l'année 2024 à 3,19€ les 200 grammes chez Aldi. Et c'était comme à la maison. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, 15,96€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks, info sur aldi.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Garaison, imaginez un cadre accueillant et unique dédié à l'apprentissage et à la transmission. Un lieu où écoliers, collégiens et lycéens grandissent et étudient dans le meilleur des environnements. Bienvenue à Notre-Dame de Garaison, l'institut qui fait le lien entre tradition et futur. Ici, la vie en communauté rime avec exigence et valeur. Info sur garaison.com.
Leclerc, bonjour.
Bonjour, j'ai profité de votre offre 2 plus 1 offert sur les perles de lait.
Oh, trop bon ça.
Oui, mais bizarrement, le pack offert est encore meilleur que les deux autres. Vous savez pourquoi ?
Ah ça, c'est juste le goût des bons plans. Du 23 avril au 4 mai, pendant l'opération Nos super pouvoirs d'achat chez Leclerc, le troisième pack offre découverte perles de lait vanille est offert.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Même promotion disponible sur d'autres variétés, modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Bière Pélican présente. Nous sommes actuellement en présence d'un remarquable spécimen de bière Pélican. Observez sa couleur dorée. Pas de doute, c'est bien une bière blonde Pélican. Pour révéler son goût généreux, la bière Pélican amorce son rituel de service. Un retournement de sa bouteille qui permet de remuer les levures et donner tout son caractère à la bière Pélican non filtrée. Pélican, bière du Nord non filtrée à 7,5 degrés. Pélican, retournez, savourez. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Le meilleur de Sud Radio. John Racotosafi.
Et bon courage pour tous ceux qui terminent les vacances ce week-end. On est là sur Sud Radio pour vous soutenir avec la suite du meilleur de Sud Radio. Et cette semaine, Benjamin Glaise était au micro de l'invité politique de Sud Radio entre 8h30 et 9h. Énormément d'invités qui se sont succédés chez lui pour répondre à ses questions. C'était le cas notamment de Roland Lescure avec ce ministère très important, celui de l'industrie et de l'énergie. En cette période d'inflation, forcément, on avait beaucoup de questions à lui poser sur Sud Radio.
Sud Radio, l'invité politique, Benjamin Glaise.
Mon invité politique aujourd'hui, c'est le ministre délégué chargé de l'industrie et de l'énergie, Roland Lescure. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Emmanuel Macron, donc, qui a prononcé son discours sur l'Europe depuis la Sorbonne, 7 ans après son premier discours, allocution fleuve, je crois qu'on peut le dire, près de 2 heures. L'Europe est mortelle, ce sont ces mots. Il a parlé également de la question de mettre en place un bouclier antimissile européen. Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà dans les tuyaux auparavant ou pas ?
C'est quelque chose qui se discutait, et notamment les Allemands avaient mis en avant cette idée pour l'Allemagne. Bon. D'abord, est-ce que l'Europe est mortelle ? Oui, l'Europe, elle est jeune. L'Europe, c'est une construction qui a moins de 70 ans aujourd'hui. Donc c'est pas un pays, une nation comme la France, millénaire, qui est inscrite dans l'histoire et qui se projette dans les siècles qui viennent. Donc le fait de dire que l'Europe est mortelle aujourd'hui, je pense que c'est un réveil bienvenu sur l'intensité du moment. Surtout
si elle est mortelle, c'est-à-dire qu'il y a des menaces très concrètes.
Non mais bien sûr, j'allais y venir. C'est-à-dire surtout que l'Europe aujourd'hui, il faut le reconnaître, elle est assiégée. D'abord, on a la guerre aux portes de l'Europe. Et cette guerre, liée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est une guerre existentielle. Derrière l'Ukraine, c'est effectivement une certaine idée de la démocratie, une certaine idée de l'Europe qui est attaquée. Elle est assiégée aussi d'un point de vue des ingérences sur nos réseaux sociaux, dans nos boîtes mail, dans nos réseaux. Le président de la République l'a dit, nos réseaux d'énergie peuvent être attaqués. Donc on a un enjeu de siège, il faut le reconnaître, virtuel, cyber. Et puis, elle est aussi assiégée d'un point de vue économique. Aujourd'hui, on a 2 grandes puissances, la Chine et les États-Unis, qui ne jouent plus le jeu suivant les règles qui étaient en phase depuis une 30aine d'années. Depuis 30 ans, on se disait, la concurrence libre et non faussée, le commerce international va régler tous nos problèmes, ça va amener la paix dans le monde et la prospérité. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on a 2 pays, la Chine et les États-Unis, qui sursubventionnent leurs industries. Et donc il faut qu'on fasse face à ce triple siège, un siège géopolitique, un siège cyber et un siège économique. Et pour ça, il faut réagir, il faut se projeter.
J'en reviens à la question de la sécurité et de ce bouclier antimissile européen. Est-ce que là-dedans, on peut imaginer de mettre en commun notre dissuasion nucléaire avec d'autres pays, avec les autres pays de l'Union européenne ?
Là-dessus, le président de la République a été très clair. Il ne faut rien s'interdire, il ne faut pas non plus préempter les débats.
Donc c'est une possibilité.
Ça fait partie des choses dont on pourra discuter avec nos partenaires. Quand on voit ce qui se passe à Kiev ou à Lviv aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Israël, la réflexion autour de boucliers antimissiles se pose, forcément. Même si évidemment l'Union européenne est une énorme zone, beaucoup plus vaste que celle dont on parle, Israël d'un côté ou Kiev et Lviv de l'autre. Mais cette question se pose. Et par ailleurs, on le sait, la France est la seule puissance dite dotée, c'est-à-dire qui est dotée de l'arme nucléaire dans l'Union européenne. Donc la manière dont la France peut intégrer évidemment ce fait dans la défense européenne et la manière dont l'Union européenne peut intégrer ce fait dans sa réflexion autour de la défense est bienvenue. Maintenant, vous le savez, la puissance nucléaire a une vertu énorme, d'autant moins qu'on en parle. Elle est là, on le sait, et puis voilà. Donc, on n'en dit pas plus.
Donc on n'en dit pas plus, mais on aura compris. La porte est ouverte à ce sujet. Quand on parle de menaces, de ce qui menace l'Europe, est-ce que les souverainistes, qui concrètement sont de plus en plus présents, augmentent de plus en plus dans un certain nombre de pays de l'Union européenne, est-ce que là aussi c'est une menace très claire pour l'Europe,
bien
selon
sûr.
Vous
Bien sûr, depuis 5 ans, et en fait depuis 7 ans, depuis le premier discours de la Sorbonne, on a réussi à inscrire une Europe où c'est au fond le centre. Et dans ce centre, il y a la délégation française Renaissance au Parlement européen qui font les majorités. Et donc, on a réussi à avancer, ça vous surprend pas que je le dise, en même temps, un peu à gauche et un peu à droite. On a eu à la fois des dispositions extrêmement ambitieuses sur la transition environnementale, mais aussi des dispositions très ambitieuses sur la compétitivité européenne, sur la gestion des frontières, le fameux pacte asile-immigration qui permet à la fois de mieux préserver les frontières européennes, mais aussi d'intégrer davantage, de manière plus équilibrée, les immigrés qui ont vocation à entrer en Europe. Donc,
et pourtant,
tout ça
les listes souverainistes d'extrême droite n'ont jamais été aussi hautes, quoi.
Le risque, il est là aujourd'hui. Le risque, il est que plutôt que les majorités se fassent au centre, au Parlement européen, le risque c'est qu'elles se fassent à l'extrême droite. Donc il faut lutter contre ça. Et c'est pour ça que tout ce qu'on porte dans cette campagne, notre capacité à, par exemple, réconcilier économie-écologie, c'est-à-dire faire de l'écologie à la fois un fer de lance de ce qu'est l'Europe et de ce que sera l'Europe, la première, le premier continent décarboné au monde, mais aussi d'en faire un gage de prospérité. Moi, je porte ça tous les jours. L'industrie française, l'industrie européenne verte, elle doit être un gage de prospérité dans tous nos territoires, y compris dans les territoires où le Front National, le Rassemblement National a prospéré. L'industrie, c'est une arme anticolère, c'est une arme d'espoir. Il faut utiliser cette arme en France et en Europe.
Pour terminer sur ce discours d'Emmanuel Macron, discours de campagne, oui ou non, et puis au-delà de ça, quand on parle de souveraineté, notamment française, on a l'impression qu'on entendait surtout le terme de fédéralisme presque. On était plus sur une Europe fédérale présenté, vendu par Emmanuel Macron plutôt qu'une Europe des nations.
Moi, je me méfie, des guerres de religion ou des guerres qui consistent à prendre des mots un peu mythiques et à les opposer les uns aux autres. La réalité, on le sait bien, c'est que l'Europe ne sera pas forte si les nations qui la composent ne sont pas fortes. Mais la France ne sera pas forte dans le monde dans lequel on est aujourd'hui si l'Europe n'est pas forte. L'Europe, c'est un équilibre entre des pays forts dans une équipe encore plus forte. C'est une équipe de foot, l'Europe. Une vraie équipe de foot n'est forte que quand les 11 joueurs jouent ensemble. On est à 27. C'est parfois un peu plus compliqué de jouer à 27 qu'à 11. Mais si on joue pas ensemble de manière solidaire, coopérative, reconnaissant les différences, les talents différents des uns et des autres, on va perdre la partie parce que face à nous, on a 50 États, les États-Unis, et un certain
Donc
nombre de provinces de la Chine qui sont très
forts.
On peut
avoir une souveraineté française et une souveraineté européenne en même temps.
Regardez, les médicaments. Moi, j'ai été à Bruxelles cette semaine pour annoncer le lancement d'une alliance des médicaments critiques. Ça veut dire quoi?
Au niveau européen, oui.
Au niveau européen. Parce que, évidemment, on l'a vu face à la Covid, si on n'est pas fort en européen sur les médicaments, on n'y arrivera pas. On a été le continent, j'aurais aimé qu'on l'invente, le vaccin, mais en tout cas, on a été le continent qui a produit le plus de vaccins et qui a partagé ces vaccins de manière à vacciner tout le monde en Europe. Ça a été un exemple unique. On a aujourd'hui un projet de relocalisation de médicaments critiques en France et en Europe.
On est où aujourd'hui?
On avance. On a 25 médicaments qui sont en train...
On parle beaucoup du paracétamol.
Le paracétamol, ouais. On a deux usines qui vont ouvrir en France. Le Curare, des médicaments contre le mélanome, contre le cancer du pancréas, sont en train d'être rapatriés en France. Mais si demain... on a 27 usines de paracétamol en Europe, je suis pas sûr qu'on sera très efficace. Donc il faut à la fois que chaque pays ait sa politique de souveraineté, parce que la politique de santé reste évidemment nationale, mais qu'on se coordonne de manière à éviter qu'on ait 27 usines de paracétamol en France. C'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. L'Europe, c'est un équilibre entre des nations fortes et un collectif d'autant plus fort.
Roland Lescure, le ministre délégué en charge de l'industrie, était l'invité de Benjamin Glaize. C'était ce vendredi sur Sud Radio.
Le meilleur de Sud Radio, John Rakotozafi.
Et dès lundi, c'est Jean-Jacques Bourdin qui sera de retour pour l'invité politique entre 8h30 et 9h, avant de prendre vos appels, comme chaque jour, pendant une demi-heure, au 0826-300-300. Allez, restez avec nous dans quelques instants. On a rendez-vous avec toute l'équipe de Sud Radio Rugby, avec au micro François Triot ou encore Alexandre Priam pour vous faire vivre les meilleures rencontres de ce week-end. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine sur Sud Radio.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
Moi, je regarde les matchs, mais je fais le coup le son de la télé et je mets Sud Radio. Les meilleurs commentateurs, c'est Sud Radio, il n'y a rien à dire.
Sud Radio, la radio du rugby.
Carrefour.
Quand vous me dites
« Le week-end, faut se faire plaisir !»
Je vous réponds que le bon plan du week-end, c'est la bavette de bœuf 3 étoiles à griller, garantie prix le plus bas, à 13,99€ le kilo seulement. Alors,
c'est parfait!
Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 10 fois la différence. Et c'est jusqu'à demain chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Origine Allemagne, Royaume-Uni ou Pays-Bas. Caissette de 800 grammes environ, détails sur carrefour.fr.
Écoutez Sud Radio Valenciennes en DAB+.
Sud Radio.
Dites donc, cher voisin, on s'est offert une pergola.
Oui, une pergola bioclimatique à prix direct usine. Et je l'ai montée moi-même.
Et tu l'as dénichée où, cette petite merveille?
Sur usineonline.com. Tu choisis tes options et dimensions. Tu trouves tout. Des pergolas, store, carport, porte, portail, peinture.
Des fenêtres et volets aussi?
Tout. Et en ce moment, ils sont en promotion à moins de 30% avec livraison offerte.
Usineonline.com? Faut que j'en parle à ma femme. Chérie!
Usineonline.com. Cliquez, commandez et profitez.
À tous ceux qui montrent une photo de leur chien ou de leur chat, pour que vous disiez « Oh, il est mignon !» et pour qu'ils répondent « Il a 3 ans, à la base c'était celui de mes voisins et... » Pardon Pascal, mais personne t'a demandé, on voulait juste être sympa. Intermarché rembourse 50% de vos achats sur le rayon alimentation chien et chat en 2 bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bon d'achat.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 28 avril, des 15 euros et jusqu'à 25 euros d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com.
Estimation du temps de trajet. Calcul en cours. Calcul en cours. Je n'y arrive pas. Comment avez-vous passé le péage si vite? J'hallucine. Grave.
Avec le Pass Ulysse, passez au péage sans attendre pour 2 euros par mois. Et zéro si vous ne l'utilisez pas.
Ulysse, et c'est réglé.
Voir conditions sur ulysse.com.
On a passé de super moments ensemble, mais il faut qu'on se sépare. Tu me coûtes très cher, tu sais.
Jacques est injuste. Pendant les Oscars Odaise, Oscaro.com vous offre jusqu'à 70% de remise sur des milliers de pièces et produits.
Bon bah, je te garde.
Oscaro.com, la référence pour votre auto.
Voir conditions sur le site. Oscaro Days signifie les jours Oscaro.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Allô patron, elles sont à 2,99€.
Les fraises rondes ?
Eh oui, en ce moment chez Lidl, la barquette de 500 grammes est à 2,99€.
Ils sont encore et toujours moins chers que nous.
Eh oui, je vous en ramène une barquette avec de la chantilly, ça vous dit ?
Toi ramène ta fraise, t'es mal embarqué.
En barquette, patron.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 5,98€ le kilo, catégorie 1, origine France. Plus d'informations.